Et bonjour à tous. Un journaliste et un chercheur ont révélé cette semaine que l'essai nucléaire baptisé Centaure en Polynésie française avait manqué son but et qu'un nuage radioactif était passé au-dessus de Tahiti sans que la population en ait été avertie. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Avec notre partenaire Disclose, vous vous êtes replongé dans les archives et vous avez enquêté pour mesurer avec le recul ce qu'ont vraiment été ces essais français dans le Pacifique.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Nous sommes sur le transporteur de la Marine nationale, l'Ouragan. Que va-t-il se passer à partir de maintenant? Eh bien, dans un instant, nous allons devoir nous retourner. Nous allons devoir abaisser ces lunettes noires. Pourquoi? Parce qu'au début de l'explosion, il y a la boule de feu, le flash. Plus éblouissant que des milliers de soleils, personne ne peut évidemment le regarder.
5, 4, 3, 2, 1...
Voilà, c'était un extrait d'un reportage diffusé à la télévision le 15 juin 1971. Une explosion nucléaire a lieu sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. À l'époque, ces essais sont présentés comme propres et sans danger pour les populations. Mais une modélisation, dont les résultats viennent d'être publiés, vient contredire cette vision des choses. Alors avec notre partenaire Disclose, vous avez donc essayé de voir ce qu'il en est, Benoît Colomba. Mais pour commencer, dites-nous, il faut peut-être préciser, ces essais nucléaires en Polynésie, ils ont démarré quand?
Eh bien, ils débutent en 1966. Ce sont des essais atmosphériques à l'air libre jusqu'en 1974. Ils deviennent ensuite souterrains jusqu'à la fin des essais en 1996. Au total, la France a procédé à près de 200 explosions nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, situés à plus de 1000 km de Tahiti.
Et pourquoi avoir choisi de les faire en Polynésie, ces essais?
Eh bien, parce qu'auparavant, la France fait exploser sa bombe dans le Sahara algérien. Mais avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, le pouvoir gaulliste doit changer son fusil d'épaule. Le choix se porte donc sur la Polynésie. Une option en réalité déjà sérieusement envisagée dès les années 50, comme l'explique le chercheur spécialiste du nucléaire Benoît Pelopidas.
On a un rapport dès janvier 1957 qui envisage l'Algérie ou la Polynésie comme deux sites possibles, mais pas encore Mururoa. Donc, il faut bien voir que cette recherche du site d'essai alternatif à l'Algérie, elle commence bien avant le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le 26 décembre 1961, le général Thiry finit par suggérer au chef d'état-major de la marine qu'il serait intéressant d'explorer les possibilités de l'atoll de Mururoa.
Et pourquoi précisément Mururoa?
Parce que d'abord, on cherche un endroit isolé, loin de la métropole, et certains pensent aussi que, loin des regards, eh bien, les éventuelles protestations seront faciles à contrôler, comme l'explique encore Benoît Pelopidas.
Un des éléments cruciaux du choix de la Polynésie, c'est limiter la possibilité de la contestation. Il faut se souvenir qu'il y avait eu une contestation substantielle qui a eu un effet sur les essais nucléaires en Algérie. Donc la limitation de la contestation, le facteur politique, est un élément décisif du choix du site polynésien.
Oui, une fois que ce site est choisi, Benoît, démarre donc la campagne des essais, en toute discrétion, mais depuis quelques années, les archives nous permettent d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé.
Oui, il faut savoir qu'une partie de ces archives ont été déclassifiées par l'armée en 2013, avec l'aide d'un chercheur. Le journaliste Thomas Status a donc épluché ces 2000 documents, souvent très techniques, mais quand on les regarde de près, ils permettent de comprendre ce qui s'est passé sur le terrain, et on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a raconté au grand public.
C'est une autre histoire qui est racontée par ces documents quand on lit bien entre les lignes. Alors une histoire faite de ratés, une histoire faite de choses improvisées, où on a envoyé des légionnaires brosser du corail pour enlever la radioactivité, où on a dissous des routes à l'acide parce qu'on ne trouvait pas d'autre solution pour faire disparaître la radioactivité, où des gens ont touché des choses radioactives qu'ils n'auraient pas dû toucher. Et effectivement, toute cette histoire-là, elle est probablement plus juste que celle qui a été racontée à l'époque, qui est de dire les essais c'était au cordeau, on a fait ça parfaitement et d'ailleurs tout était prévu.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, qui n'était pas prévu?
Eh bien, ça commence dès le tout premier essai nucléaire à Mururoa en juillet 66, baptisé Aldébaran. Un essai particulièrement contaminant, qui a notamment touché l'île des Gambiers, à 400 km de là. Les autorités expliquent que le vent a subitement tourné dans la mauvaise direction le jour J et qu'elles ne pouvaient donc pas le prévoir. Or, les archives livrent une autre version, témoigne encore Thomas Status.
Dans les archives déclassifiées, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport météorologique qui attestait que le vent soufflait vers les Gambiers quelques heures avant le tir Aldébaran. Un autre élément qui est assez frappant, c'est qu'il y a des bouées. L'armée française faisait des mesures, donc il y avait toute une batterie de capteurs qui étaient placés sur l'itinéraire du nuage, et il y avait même des bouées, en fait, qui étaient placées dans le sens du nuage. Ça montre que les autorités françaises savaient que le vent aller vers les Gambiers et que donc il y avait un fort risque de contamination pour les populations des Gambiers. Malgré ça, le tir s'est déroulé comme c'était prévu.
Et on n'a rien dit aux populations?
Eh bien non, et lorsque quelques jours plus tard un navire scientifique est envoyé sur place pour estimer la contamination des habitants de l'île, le chef de l'expédition écrit dans son rapport que la population tahitienne, et là je le cite, est inconsciente, insouciante et ne manifeste aucune curiosité. Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de manière à ne pas perdre la confiance de la population, conclut ce rapport.
Mais rien n'avait été prévu pour protéger la population?
Alors si, mais pas tout de suite. On va bien construire des refuges, mais il ne s'agit pas vraiment d'abris anti-atomiques, comme le raconte Gilles Cournet, qui habitait alors aux îles Gambiers avec son père gendarme.
Ça n'avait rien à voir avec un blockhaus. C'était un gymnase avec des tôles, point. Pour minimiser les conséquences radioactives, le toit était en permanence arrosé d'eau de mer. Donc il y avait des pompes, c'est pour ça qu'il était près du lagon, qui prenaient l'eau de mer, qui arrosaient le toit en permanence, ce qui fait que les poussières radioactives ne stagnaient pas et étaient emportées dans le lagon. Et il y avait un blockhaus pour les militaires qui n'était pas au même endroit et qui faisait un mètre de diamètre. Il y avait deux niveaux de protection. Il y avait le niveau de protection pour ceux qui géraient les explosions atomiques et puis les autres.
Mais ça veut dire que la population était moins protégée que les spécialistes du nucléaire?
Effectivement, si l'on en croit à nouveau les souvenirs de Gilles Cournet, il m'a raconté cette scène qui se passe juste après qu'il soit sorti du blockhaus réservé aux civils.
Je vois un cosmonaute dans le jardin avec un compteur GGR. Alors, je ne savais pas que c'était un compteur GGR, mais il enlève son casque en nous voyant et il dit qu'est-ce que vous faites là? Et mon père dit on est sorti, on a eu l'ordre de sortir. Ah non, fallait pas sortir, c'était trop vite. Et il dit à ma mère de toute façon c'est pas grave, il suffit que vous restiez calmement à l'intérieur. Il a beaucoup plu et après les enfants peuvent jouer dehors.
Ouais. Et cette manière de minimiser le risque, Benoît, on la retrouve aussi dans les chiffres de contamination qu'on prend pour référence.
Oui, l'analyse des archives permet de comprendre que les mesures de contamination radioactive effectuées à l'époque au sol, dans l'eau, dans l'air ou dans les aliments, pour calculer la dose à laquelle ont été exposées les populations, ces mesures ont été largement sous-estimées, même si les autorités françaises les ont réévaluées en 2006. Pour le chercheur à l'université américaine de Princeton et spécialiste du nucléaire, Sébastien Philippe, ces mesures sont toujours en dessous de la réalité.
On peut trouver des écarts, on va dire, qui vont de une fois et demie, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 10 fois dans certains cas. Entre les valeurs estimées en 2006 et de nouvelles valeurs qu'on obtiendrait si on prenait en compte une consommation d'eau plus importante, notamment contaminée, si on boit de l'eau à partir de citernes individuelles.
Mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de critères qui n'ont pas été pris en compte dans les calculs de contamination?
Oui, par exemple, l'eau de pluie contaminée est très largement consommée par les Polynésiens, donc si on ne l'intègre pas dans les calculs, ça change tout, et ça, les autorités le savent, mais elles n'en tiennent pas compte, comme en témoigne Catherine Sarda, qui est originaire des Gambiers. Elle se souvient d'une scène qui l'a marquée en 1968, juste après un essai atomique.
Il y avait des gens qui sont venus en combinaison pour prélever l'eau. Il a dit à mon père, faut pas boire cette eau. Si je comprends bien, mon père leur a dit, mais l'eau, elle est contaminée. Mon père, elle a dit, mais qu'est-ce que vous allez nous donner? Alors, il faut que j'aille ramasser des noix de coco pour donner de l'eau de coco à mes enfants. On a repris le cours de notre vie normale.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors une partie de la population de Polynésie française a été plus exposée à la radioactivité qu'on a bien voulu le dire à l'époque, Benoît Colomba. Mais quid des militaires lambda, c'est-à-dire des jeunes appelés qui, eux, assistaient à ces essais nucléaires?
Eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment plus informés que les autres. Écoutez le président de l'Association des vétérans des essais nucléaires, Jean-Louis Camusat, lorsqu'il part en bateau pour Tahiti en 1969. Il ne sait pas du tout ce qu'il attend.
J'avais 20 ans, je suis parti, je voulais absolument partir et pas rester à Paris faire mon service militaire. Donc moi j'étais ravi de partir à Tahiti. Pour nous Tahiti c'était le Club Med, hein. On nous a jamais dit vous allez aller voir des bombes atomiques. Je savais même pas ce que c'était qu'une bombe atomique. Même nos parents n'étaient pas plus inquiets que ça. On est parti, on a vu péter des bombes et puis c'est tout. Moi, je l'ai découvert en arrivant à Mururoa. Là, on a commencé à nous expliquer qu'on était sur le lieu où étaient faites les expériences nucléaires. On ne s'attendait pas à ça.
Il n'est pas le seul à vous avoir dit ça, d'ailleurs.
Non, c'est aussi ce qu'a vécu Christian Coulon, qui s'engage à 18 ans et demi dans la Marine nationale. Lui aussi découvre l'objet de sa mission lors de sa traversée en bateau. Mais à l'époque, il n'est pas vraiment inquiet.
J'avais posé deux, trois petites questions et on m'avait répondu « Mais non, mais tu verras, là-bas, d'abord c'est des bombes propres, puisqu'elles pètent en altitude, alors qu'Hiroshima, tout le monde sait qu'elle a pété en altitude aussi. » Et donc, bon, on a fait des essais et pour vous dire que je n'avais pas peur, j'ai rempilé pour la deuxième année, parce que je m'apercevais qu'on n'était pas malade, qu'on n'avait rien, quoi.
Ouais, on n'avait rien sauf que ces bombes. Contrairement à ce qu'on leur a dit, Benoît, elles n'étaient pas inoffensives.
Oui, et surtout, eux non plus n'étaient pas protégés, si l'on en croit encore le témoignage de Christian Coulon, qui naviguait à bord du De Grasse, le navire amiral de la flotte française.
On était tous en short, t-shirt, voilà. Il n'y avait aucune protection individuelle. On se mettait dos au tir, on se tenait par les mains à la rambarde, et puis on entendait par haut-parleur 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu. Et là, on avait un souffle qui arrivait, et qui, mais si on ne se tenait pas, je vous jure qu'on aurait pu être balayé du pont. On avait une paire de lunettes pour 5 ou 6, ça dépendait. Il faut savoir qu'on était presque 600 sur le bateau. Hein. Donc, il ne pouvait pas avoir des lunettes pour tout le monde. Et une fois qu'on avait le souffle, après, il y avait le bruit, c'est assourdissant. Et après, il nous donnait l'ordre, vous pouvez vous retourner. Et là, on se retournait, et là, on avait le champignon, on avait la boule de feu, parce qu'on la voyait encore. Et voilà, mais il ne pouvait rien nous dire, de toute façon. Sinon, on n'aurait pas fait les essais. Personne n'aurait continué.
Mais on ne leur a vraiment rien dit sur les risques qu'ils prenaient ?
Eh bien non, le discours officiel, lui, se veut rassurant, mais il y a quand même des choses qui mettent la puce à l'oreille de Christian Coulon. Écoutez-le raconter cette scène qui est restée gravée dans sa mémoire.
En 70, il est venu un ministre, donc on a eu un tir. Moi, j'étais de quart à la chaufferie arrière. Et c'était juste avant la relève de quart. À la relève de quart, mon collègue qui est venu me relever, il me dit « Dis donc, t'es sûr que ça risque rien, les tirs, là ?» Bah, je dis « Écoute, non, sinon on le saurait, il nous l'aurait dit. » Enfin, je pense. Et il me dit « Bah, écoute, va voir un peu à la passerelle. » Donc, je suis parti à la passerelle du bâtiment. Et là, il y avait le fameux ministre avec le commandant. Et lui, bizarrement, il avait une combinaison blanche et ils avaient des masques. Donc, bah, on a posé la question quand même. On dit « Ouais, mais c'est parce qu'il a un conseil des ministres, il doit repartir en France demain. Il faut même pas qu'il attrape une grippe, faut surtout qu'il attrape rien du tout, quoi. » C'est le seul truc qui m'a un peu choqué.
Ouais, le seul truc, mais ce discours rassurant, la hiérarchie de l'armée, elle y croit vraiment ?
Eh bien, en fait, quand on se plonge dans les archives, on se rend compte qu'il y a vraiment un double discours. Écoutez ce que dit à ce sujet un ex-vétéran des essais en Polynésie, Jean-Luc Sens.
J'ai trouvé des notes du ministère de la Défense qui disaient qu'il ne fallait surtout pas souligner les dangers inhérents à la radioactivité parce que sinon il n'y aurait plus de volontaires pour aller au centre d'expérimentation dans le Pacifique. On a aussi une autre note que j'ai trouvée où on disait que on continue à envoyer les gens du contingent parce que si on n'envoie pas les appelés les gens du contingent, les gens vont comprendre que c'est dangereux. Voilà, donc on va continuer à envoyer les appelés. Inch'Allah, on verra bien s'il se passe quelque chose par la suite en gros, quoi.
Et pourtant, Benoît, parmi les militaires envoyés sur le terrain, il y a bien des postes qui sont exposés.
Oui, comme par exemple les pilotes qui traversent le nuage atomique ou encore ce qu'on appelle les bouilleurs.
Les bouilleurs, alors on va préciser.
En fait, c'est le nom donné aux marins chargés de rendre l'eau de mer potable pour l'équipage et qui se retrouvent en permanence derrière des tuyaux potentiellement contaminants. Et selon le journaliste Thomas Status, l'armée dispose alors d'informations très précises à leur sujet.
L'armée française est au courant du risque qu'elle fait courir à ses bouilleurs. Elle le sait, elle a d'ailleurs écrit dans un petit document qui s'appelle le Vademécum de la radiocontamination, qui est grosso modo un état des lieux des risques que pouvaient courir les militaires à l'époque. Et donc on se rend compte assez vite qu'il y a des militaires qui sont contaminés, et particulièrement un matelot en 1967 qui est envoyé à l'hôpital de Percy, qui est un hôpital militaire en banlieue parisienne. Le certificat médical qu'écrit le médecin à son sujet est assez frappant puisqu'il écrit qu'il a une maladie, qui est une maladie qui provient de l'exposition radiologique suite à son travail en tant que bouilleur face à ces tuyaux qui étaient radioactifs. Et ça montre qu'on a décidé à continuer à faire travailler des gens devant ces tuyaux radioactifs.
Et l'armée, elle le reconnaît aujourd'hui, ça?
Alors, l'existence de ces contaminations n'est pas niée, bien évidemment, mais ce que l'armée conteste, c'est la régularité, le côté systémique de ces contaminations. Et pourtant, des échanges récents au sein de l'armée, auxquels a pu avoir accès Thomas Status, montrent qu'en fait, elle a parfaitement pris la mesure du problème.
Dans des échanges internes, on a pu constater que l'armée avait une connaissance fine, plus fine en tout cas de ce qu'elle disait, de ces risques pour les militaires et des conséquences dommageables pour ces militaires. Dans cet échange, l'armée dit qu'un tiers des personnes qui ont séjourné plusieurs semaines sur les atolls de Mururoa et Fangataufa entre 1966 et 1974 ont ou auront un cancer, et ça représente 2000 personnes.
Et je précise que du côté de l'armée française, officiellement, on dément l'existence d'une telle estimation.
Secret d'info sur France Inter.
Alors on va s'intéresser maintenant, Benoît, à un essai bien particulier, un essai qui a directement menacé la population de Tahiti.
Oui, il s'agit de l'essai baptisé Centaure, qui s'est déroulé le 17 juillet 1974 dans l'atoll de Mururoa. C'est l'un des derniers essais atmosphériques avant de passer au tir souterrain. À l'époque, c'est effectivement un ratage. Le nuage n'atteint pas la hauteur prévue de 8000 mètres. Et surtout, il ne part pas vers le large comme c'était attendu. Le chercheur Sébastien Philippe a remodélisé sur ordinateur le parcours du nuage atomique et voilà ce que ça donne.
On obtient des cartes, on peut visualiser le parcours du nuage heure par heure. Et donc en suivant ce trajet heure par heure, on voit la progression du nuage qui, au lieu de partir vers le nord, part de Mururoa directement en direction de Tahiti. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de changement de direction, ça va vraiment en ligne droite.
En ligne droite, vers Tahiti, qui est donc touché par le nuage atomique 42 heures plus tard.
Mais l'armée savait que ce nuage était en train de dériver?
Eh bien, pour Thomas Status, qui a épluché les archives et notamment les rapports météo, la réponse est très claire.
L'armée, quelques heures après le tir, connaît le risque que le tir Centaure fait peser sur les populations civiles. Elle sait, précisément, que les masses d'air ont l'air de pousser le nuage vers Tahiti. Elle décide de ne rien faire, il n'y a aucune communication aux autorités locales de ce qui se trame, et en aucune manière, elle ne fait quoi que ce soit pour avertir les populations civiles en leur disant de se mettre à l'abri, ou de suspendre leur consommation de certaines denrées, par exemple. Je pense à l'eau, je pense au lait, aux substances qui fixent assez fortement les substances radioactives. Et donc Centaure se déroule comme ça, et d'ailleurs, il n'y a même pas d'article de journaux. Le tir est complètement secret.
Et au total, ce sont donc 110 000 personnes à Tahiti et aux îles sous le vent qui sont potentiellement touchées par cet essai sans le savoir, sachant que la pluie qui tombe à l'époque accélère le dépôt d'éléments radioactifs.
Et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui du côté des autorités françaises?
Alors j'ai interrogé là-dessus le président de la commission chargée d'indemniser les victimes des essais nucléaires, le CIVEN, Alain Krisnard, qui vient tout juste de quitter ses fonctions, lui assure que les conséquences de l'essai Centaure ont déjà été intégré par le CIVEN.
C'est pas une découverte hein, qu'après l'essai Centaure, il y a eu des retombées à un certain nombre d'endroits. C'est tout à fait documenté, ça a été mesuré, et en particulier, ça a mis en lumière que les retombées se sont beaucoup plus produites sur ce qu'on appelle la presqu'île de Tahiti et les communes environnantes. Parce qu'après, il y a un relief qui a arrêté une partie des retombées. Je ne vois pas ce qu'une éventuelle nouvelle modélisation des retombées peut y changer. Les personnes qui étaient dans certaines zones de Tahiti après l'essai Centaure, on accepte leur demande très largement. Les retombées de l'essai Centaure sur Tahiti, c'est pas un scoop, hein, je vous assure.
C'est pas un scoop, et donc ça a été intégré dans le calcul des indemnisations.
Eh bien, vous allez voir que ça n'est pas si simple, mais pour le comprendre, il faut d'abord entendre des victimes officielles de cet essai Centaure. C'est le cas, par exemple, de Valérie Voisin, 58 ans, qui vit à l'époque sur la commune de Papara, à Tahiti. 47 ans après l'essai, elle se remet tout juste d'un cancer du sein, reconnu officiellement en 2019 comme maladie radio-induite, c'est-à-dire liée au nucléaire. Nous l'avons jointe par téléphone en Polynésie.
Actuellement, j'ai des problèmes osseux. J'ai l'impression de ne pas sortir d'un carcan. J'ai perdu toutes mes dents avec la radiothérapie. J'ai du mal à parler, à manger avec un appareil dentaire. Je me suis retrouvée souvent en radiologie pour des problèmes de fractures multiples. C'était pas normal par rapport à mon âge. La dernière, c'était une fracture à l'épaule. Ça m'a quand même effrayée. J'ai un squelette de 90 ans.
Oui, de 90 ans, alors qu'elle en a 30 de moins. Mais elle a été reconnue comme victime, Benoît.
Oui, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, parce que les données utilisées pour évaluer la contamination peuvent parfois être biaisées. C'est en tout cas la conclusion de Sébastien Philippe pour ce qui concerne l'essai Centaure.
On a vérifié toutes les données sources qui ont été utilisées à partir des documents d'archives et on a trouvé des problèmes, notamment la valeur qui a été retenue de la contamination au sol, la contamination de référence pour la station radiologique de Tahiti, mais aussi les cartes qui représentaient les retombées au sol sur Tahiti. La zone la plus densément peuplée a pu être plus exposée que ce qui a été retenu dans les hypothèses de calcul de 2006. Au-delà de ça, on a aussi des données manquantes sur la contamination des aliments du marché de Papeete.
Ah, et donc lui pense qu'on n'a pas intégré toutes les données quand on a calculé l'impact du nuage de l'essai Centaure.
C'est ça, on aurait sous-estimé ses conséquences, mais là on ne parle que de Tahiti. Or, d'autres îles sont évidemment concernées par ces essais, comme l'archipel des Gambiers, dont est originaire Catherine Cerda. Et dans sa famille, les cancers se sont multipliés.
J'avais ma maman qui a eu un cancer du pancréas, mon papa a eu un cancer des yeux. J'ai mes tantes qui sont décédées du cancer du sein. Les sœurs de mon papa, pareil, hein, elles avaient eu le cancer. Un cousin qui a eu un cancer de la prostate, il était jeune. J'ai ma cousine qui est décédée du cancer, attendez, elle est née en 59. J'ai même une petite cousine, elle est née en 56. Et c'est pas normal qu'ils sont décédés comme ça. Pourquoi on a autant de cancers chez nous? Moi, je pense que c'est depuis qu'on a eu les essais nucléaires.
Il n'est pas la seule à penser ça.
Non, c'est aussi le cas de Gilles Cournet, qui lui aussi a passé son enfance au Gambier dans les années 60. Il est revenu y travailler comme médecin entre 2009 et 2011. Et ce qu'il constate alors n'est pas très rassurant, comme par exemple des cancers de l'endomètre.
L'endomètre, c'est la paroi intérieure de l'utérus. Et là, je vois deux cancers de l'endomètre chez des femmes de 30 ans. Et ça, ça m'interpelle beaucoup. Pour moi, il y a deux problèmes majeurs. Il y a les maladies qui sont reconnues. Elles sont listées, on les prend, on remplit le dossier. Et puis, il y a tous les problèmes qui ne sont pas listés. Par exemple, les mamans qui vous disent « Oh ben, tu sais, Gilles, quand il y a eu les expériences, je faisais une fausse couche tous les ans. » C'est impossible de relier ces fausses couches, par honnêteté intellectuelle, aux expériences atomiques. Mais on vous le dit, ça vous interpelle. Ou on vous dit, tu sais, mon enfant, il est mort. À 3 mois, il faisait que de saigner. Il me confie tout ça. Donc là, je me dis qu'effectivement, il y a un problème. Après, je me promène dans le cimetière et je vois des tombes d'enfants. Et quand on regarde les dates, effectivement, on se dit, bon, d'accord. Les essais nucléaires ont des conséquences sur la population civile, c'est clair.
Mais est-ce que ce lien entre ces cancers et les essais, il est officiellement reconnu aujourd'hui ?
Eh bien, un rapport récent de l'INSERM ne concluait pas sur le sujet, et pourtant, des études plus tranchées existent, et notamment un rapport rédigé par deux médecins militaires en février 2020 et que Thomas Status a pu consulter.
Ce qu'il constate sur le terrain, c'est qu'il y a des clusters de cancers, notamment des clusters de cancers de la thyroïde, sur ces îles, particulièrement en Gambie. Et la conclusion des deux médecins est quand même assez frappante. C'est de dire qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui aurait pu provoquer ces clusters de cancers, hormis finalement l'impact radiologique des essais nucléaires.
Et puis ce qu'il faut rappeler, Benoît, c'est qu'il n'y a pas que les civils qui sont concernés.
Bien sûr, les militaires présents à l'époque sont eux aussi en première ligne. Écoutez là-dessus le vétéran et ancien dirigeant de l'AVEN, l'association des victimes des essais nucléaires, Jean-Luc Sens.
J'ai assisté au premier tir nucléaire le 5 avril 1971 et j'ai fait mon premier infarctus le 5 avril 1991. J'avais 38 ans. Quand vous faites un infarctus jeune, il y a tous les effets secondaires, les ici, les là, les machins. J'ai replongé en 97, j'ai replongé en 98. J'ai mon petit macaron sur le pare-brise parce que je peux pas me déplacer au-delà de 400 mètres en marchant normalement. C'est pour ça que je suis rentré à la veine, parce que j'ai dit, là, on m'a raconté des conneries et j'ai fait le lien parce que rien n'expliquait le fait d'avoir un infarctus à 38 ans. Si j'avais été obèse, 3 paquets de cigarettes par jour, j'aurais dit bon, mais là, c'était pas le cas.
Oui, c'était pas le cas et ces problèmes de santé ont entraîné de nombreuses demandes d'indemnisation. Mais on va voir dans un deuxième temps que ça, c'est une autre bataille.
I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time. Without drugs, without love. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry I'm fishing, without permission. Tell her I'm missing, in a serpentine prison. Don't try to connect the dots anymore. Let them go, they're gonna do it on their own. Tell me that I'm not in this alone. And I'm so sorry, I don't know, I'm slow. I feel like an impersonation of you. Or am I doing another version of you doing me? Nobody's ever really thinking about us half as much as we want them to be. Total frustration, deterioration. Nationalism, another moon mission. Total submission, I've seen a vision. Call electrician, serpentine prison. Whatever it is, I try not to listen. Cold cynicism, blind nihilism. I need a vacation from intoxication. Tell her I'm missing. Serpentine prison.
Un peu de détente avec la voix paisible et granuleuse de Matt Berninger, le chanteur du groupe The National. C'était Serpentine Prison, extrait de son dernier album qui vient de faire son entrée dans la playlist d'Inter.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Bien, alors retour à notre récit sur les essais nucléaires français en Polynésie, Benoît Colomba. Alors dites-nous maintenant, comment ça se passe pour l'indemnisation des victimes ?
Eh bien en fait, il faut prouver qu'on est atteint par un des 23 cancers radio-induits, officiellement reconnus par l'État, sachant que les associations de victimes voudraient élargir cette liste à une trentaine de maladies. C'est en discussion avec le ministère de la Santé.
Oui, sauf que cette indemnisation, elle est loin d'être automatique.
Effectivement, et d'ailleurs jusqu'en 2017, la plupart des dossiers étaient été refusé et puis le système a changé. Un seuil de contamination a été fixé, 1 millisievert par an. Le millisievert, c'est l'unité de mesure pour la radioactivité. Mais pour l'avocate de Laven et de l'association Mureroy et Tatou, Cécile Labruni, un tel système pose question parce que la plupart des gens ne sont pas capables aujourd'hui de prouver qu'ils ont reçu une dose de radioactivité à l'époque.
Comment mesurez-vous cette dose puisque la plupart du temps, les personnes n'ont pas bénéficié d'une surveillance médicale spécifique? De son côté, le Civen, lui, retient des éléments de surveillance d'ambiance et surtout des rapports qui ont été établis il y a quelques années par le commissariat à l'énergie atomique, qui était l'un des premiers intéressés et organisateurs des essais aux côtés de l'État français. Rapports sur lesquels on nous demande finalement de croire sans questionner la nature des données utilisées et la méthodologie qui a été utilisée pour finalement opposer individuellement à des personnes ces données parfaitement générales.
Ah oui, d'accord. Donc on a d'un côté des habitants qui ne peuvent rien prouver et de l'autre des autorités qui s'appuient sur des rapports qui, eux, peuvent se discuter.
Oui, alors évidemment, certains militaires disposaient, eux, parfois d'appareils de mesure qu'on appelle des dosimètres, mais ça n'était pas forcément d'une grande fiabilité si l'on en croit un ancien des essais nucléaires, Christian Coulon.
Il y avait soi-disant un dosimètre d'ambiance sur les bâtiments et quand on demande d'avoir le relevé dosimétrique, moi, je le fais régulièrement pour des vétérans. Il revient, il est zéro. C'est marqué zéro. Il n'y a rien, aucun problème.
Mais ça veut dire que certains dosimètres ne fonctionnaient pas ?
Eh bien, apparemment, non. Maintenant, du côté du Civen, on explique que d'énormes progrès ont été réalisés, avec 50% des dossiers aujourd'hui acceptés. Chaque situation est regardée de près et avec indulgence, assure le président sortant de la commission d'indemnisation, Alain Krisnart.
Les pilotes des avions qui allaient dans le nuage faire des prélèvements. Ils avaient évidemment des protections particulières, ça c'est sûr. Mais on considère qu'elles n'étaient pas suffisantes. Et donc, en règle générale, sauf exception, on les prend. Les plongeurs qui allaient plonger dans le lagon à l'endroit où il y a eu un puits, ils ne portaient évidemment pas de dosimètre parce qu'on ne porte pas de dosimètre dans l'eau. Et donc, là aussi, on les prend. Les militaires qui montrent qu'ils étaient dans des équipes de nettoyage qui remuaient des déchets radioactifs, même sans éléments de mesure, on les prend. On regarde chaque cas avec les dossiers médicaux si le cancer en question peut être relié ou pas aux essais, au rayonnement des essais. Et à chaque fois, quand il y a un doute, le doute profite aux demandeurs.
Alors je précise que plus de 1700 dossiers d'indemnisation ont été déposés depuis 2010, sachant que plus de 90 000 personnes ont participé à ces essais entre 66 et 96.
Ouais, ça fait très peu de dossiers finalement.
Effectivement, et puis il y a aussi tous ceux qui ont la chance de ne pas avoir de cancer, comme l'ancien marin embarqué sur le De Grasse, Christian Coulon, et pour lui aussi, l'angoisse reste permanente.
Sur les 20-30 collègues assez proches de moi à l'époque, bah, il doit en rester 4 ou 5, hein, pas plus. Hein. Bah, les autres, ils sont morts. Tous de cancer radio-induit. Hein. Bah, on vit avec une épée au-dessus de la tête. Hein. Moi, j'ai 71 ans bientôt. Hein. Donc, à chaque fois que je vais chez le Toubib pour faire un petit contrôle, bah, j'ai toujours la trouille qui me découvre quelque chose. Quoi. Parce que je m'aperçois que les cancers, bah, ils se développent 30, 40, 50 ans après. Hein.
Oui, cette trouille, Benoît, certains l'ont aussi pour leur descendance.
Oui, c'est le cas des familles, de tous ceux qui étaient présents lors des essais atomiques, comme le raconte le président de Laven, Jean-Louis Camusat.
Maintenant, on se rend compte que les enfants, voire les petits-enfants de vétérans, ont des pathologies identiques. Des malformations, des problèmes osseux, des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, voilà, c'est toute une globalité que l'on retrouve aussi chez les vétérans. Quand vous avez des enfants qui peuvent pas avoir d'enfants, et on a fait, nous, un questionnaire de santé. On va s'entourer de bonnes personnes pour essayer d'analyser un petit peu ces retombées ou ces retours de questionnaire.
Et le problème, c'est que pour le moment, ce genre d'étude est plutôt rare, comme le regrette le médecin Gilles Cournet. Lui s'intéresse de près, justement, à la mutation de certains gènes transmis à la génération suivante, mais dont les effets n'apparaissent que bien plus tard.
Aucune étude n'est faite là-dessus. Des enfants qui ont un handicap ou une qualité génétique qui est altérée à cause des radiations atomiques. Et ça, si on ne le prouve pas, ça passera à l'as et on dira que c'est un handicapé, alors que cet enfant-là est aussi une victime. C'est un cadeau empoisonné qu'on met à une génération qui n'a rien demandé. On a peut-être lésé pour plusieurs générations des gènes sur des gens qui n'en sont même pas conscients qu'ils ont un problème, une bombe à retardement dans leurs testicules ou dans leurs ovaires.
Ouais, c'est assez effrayant d'entendre ça. Maintenant, ce qu'on va préciser, Benoît, et pour conclure d'ailleurs, hein, c'est que ce qu'on a pu documenter aujourd'hui, on a pu le faire grâce au travail du chercheur qu'on a entendu tout à l'heure, grâce aux archives aussi, mais toutes les archives n'ont pas été rendues publiques.
Effectivement, certaines n'ont pas été déclassifiées en 2013 et d'autres risquent même de rester secrètes à tout jamais, ce qui pose quand même un sérieux problème, estime le spécialiste des questions nucléaires, Benoît Pelopidas.
La bataille à conduire, c'est vraiment une bataille pour la déclassification des archives. C'est essentiel d'ouvrir plus les archives, c'est-à-dire d'inverser la tendance en cours, parce que depuis la loi du 15 juillet 2008, précisément cette loi crée une possibilité de classification à perpétuité de documents associés à l'histoire nucléaire française. Il faut que vous mesuriez le caractère extraordinaire de cette possibilité-là. Même au moment de la Révolution française, on n'avait pas réussi à créer la possibilité de classifier à perpétuité. Là, maintenant, c'est possible.
Et c'est notamment pour ça que Sébastien Philippe et Thomas Status ont publié cette semaine ce livre intitulé « Toxique » aux éditions PUF, en partenariat avec Disclose.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, Benoît Colomba. Merci pour cette enquête. Alors, je précise qu'on peut la réécouter sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. On peut également nous retrouver sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser vos messages sur Twitter, Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission qui a été préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Nicolas Delmas. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, non pas à samedi prochain, ce sera vous, Benoît, qui me remplacerez, mais à la semaine d'après.